Chapitre 3, où le courage de M. Biroust trouve encore l'occasion de se manifester. Quand M. Biroust parlait de son courage, il n'avait l'intention de tromper personne. Il se trompait lui-même, voilà tout. Notre herboriste avait un faux courage, comme il avait un faux savoir, une fausse ignorance, un faux orgueil, une fausse modestie, de faux tiroirs, pour y cacher des produits que la pharmacie seule a le droit d'écouler, et un faux toupet. Persuadé qu'il avait poussé le dévouement pour ses semblables, si tant est que l'on puisse se servir de ce terme, quand il s'agit d'un herboriste et de trois vieilles dames, dont une demoiselle, au-delà des bornes d'un héroïsme ordinaire, ce fut avec un gros soupir de soulagement qu'il se vit enfermé chez lui à l'abri des surprises, des terribles surprises de la science. Hélas, ce soupir-là ressemblait beaucoup à un gémissement. On a beau faire profession de ne douter de rien, de ne reculer devant aucune perspective, on a beau marcher de pair avec le génie et annoncer avec tranquillité à un auditoire de vieilles dames médusées que la science avec un grand S, après avoir asservi toutes les forces de l'univers, est bien près de triompher de la mort même, ce n'est pas sans un certain étourdissement, ni sans une certaine inquiétude, « Oh les mains, nom de Dieu !» qu'on voit apparaître une espèce de soi-disant fou, soigné d'une façon exceptionnelle par un exceptionnel chirurgien qui vient vous écrire sous le nez « Si vous tenez à la vie, silence !» et cela avec l'écriture d'un homme guillotiné depuis 8 jours. Monsieur Biroust, derrière sa petite porte close, s'était laissé tomber, accablé, sur une chaise, dans son magasin qui était comme un résumé du règne végétal. Il regarda ses murs, ses tiroirs, ses placards, où la prime verte se dessèche à côté du tilleul, où le bouillon blanc des vallées françaises se mêle au rhododendron des Alpes, ses bocaux où reposait tout ce qui s'infuse par ordonnance du médecin. Ici, l'IPKQANA, à toi, Helvétius, là, la pervenchère à Jean-Jacques. Rousseau. Cet homme, M. Biroust, savait ce que l'on peut faire des produits bruts du gramen chevelu, des racines souillées d'allusions divrées par le droguiste. La guimauve était sortie de ses mains blanches comme l'ivoire. La science avait fait de lui comme le purificateur et le grand prêtre de toute cette vie végétale. Comment n'eût-il pas compris ce qu'un habile praticien peut réaliser dans le domaine animal ? Oui, mais ce qu'il ne comprenait pas, c'est que l'on remplaça le cerveau d'un fou par le cerveau d'un assassin. Ça, c'est dangereux. Et cette pensée, il l'exprima tout haut. Il la confia aux plantes amies qui l'entouraient et auxquelles il adressa un adieu désolé avant de s'aller coucher. Dans l'étroit escalier qui conduisait aux deux chambres dont il disposait au premier étage, il prononça encore « Oh, ça me dépasse !» Il arriva enfin à la porte de sa chambre et l'ouvrit. Horreur ! Il y trouva Gabriel, qui l'attendait, et Christine étendue sur son lit. La jeune fille semblait aller un peu mieux. Cependant, elle paraissait encore incapable de remuer, soit faiblesse, soit terreur, et peut-être à cause de ces deux choses à la fois. Ses beaux yeux, entrouverts, regardaient M. Biroust, avec un air où se réunissait la supplication la plus ardente, l'invocation la plus humble, la plus touchante et aussi la plus désespérée oraison. Ses yeux exprimaient « Oh, secours, par pitié, monsieur Biroust, vous voyez bien que si vous m'abandonnez, je suis morte. » Hélas, Monsieur Birous ne valait guère mieux que la pauvre Christine. Et s'il avait osé appeler au secours, c'eût été d'abord pour lui-même. Le terrible Gabriel n'avait pas quitté son revolver et son regard restait foudroyant. C'était plus qu'il n'en fallait pour un herboriste qui se croyait à jamais débarrassé de la présence de ce redoutable personnage et qui le retrouvait dans sa propre chambre, continuant à prodiguer à sa victime ses soins tardifs sur son propre lit. Et comment cet événement s'était-il produit? Si M. Birouste, au lieu de revenir chez lui par la rue, était rentré dans sa maison par les derrières, c'est-à-dire par le cul-de-sac au fond duquel se trouvait la demeure de Mlle Baresca et la sienne, il eût trouvé la porte de sa petite cuisine démolie, ce qui n'avait certainement point nécessité un puissant effort de la part d'un gars qui, tel Gabriel, portait sur son bras une demoiselle comme si elle ne pesait pas plus que dentelle de son peignoir. Et ainsi, M. Birouste eût-il été préparé à rencontrer chez lui des intrus dont la présence lui était particulièrement désagréable. Le vieux Norbert et Jacques avaient raison en comptant sur la difficulté à laquelle se heurtait Gabriel pour sortir de l'île avec Christine dans ses bras. Se sachant poursuivi de près, il lui fallait momentanément trouver une retraite coûte que coûte. Après s'être réfugié chez Mlle Baresca, il se cachait maintenant chez M. Birouste, en attendant mieux. On ne lui donnait pas le temps de souffler. Oh, du reste, il ne soufflait pas. Nous ne saurions dire non plus qu'il avait, en dépit de tous ses avatars, l'haleine égale, car, bien qu'il eût la bouche entr'ouverte, sur des dents d'une beauté éblouissante. L'effet de la respiration ne produisait chez lui aucun mouvement appréciable. Ni sa bouche, ni ses mains, ni aucun trait de son visage ne remuait. Les vers de Baudelaire semblaient avoir été faits pour ce merveilleux échantillon de la beauté masculine. « Je hais le mouvement qui déplace les lignes, et jamais je ne pleure, et jamais je ne ris. » Un qui ne riait pas et qui était bien près de pleurer était M. Birouste. Le premier geste de l'herboriste à la vue du fatal Browning avait été de rejeter à nouveau ses mains en l'air pour qu'il fût bien entendu une fois pour toutes qu'il était tout à fait décidé à n'opposer aucune résistance au cataclysme qui semblait le poursuivre avec un soin si particulier. Sur quoi Gabriel lui adressa un geste amical qui certainement voulait dire « Bon, mais baissez les mains, monsieur Birouste, je ne vous veux aucun mal. » Tout de même, comme Gabriel ne remettait pas son revolver dans sa poche, monsieur Birouste laissa ses mains où elles étaient. Il n'y avait rien à faire. Il ne voulait donner aucune occasion à son hôte de commettre un crime qui eût été du reste tout à fait inutile. Enfin, M. Birouste, pour ne point glisser sur le plancher, se laissa tomber sur une chaise, et là, il trouva encore la force de prononcer ces mots, car lorsqu'on croit sa dernière heure venue, on accomplit des choses surhumaines. « Oh, vous pouvez compter sur moi, monsieur, je ne dirai rien. Je vous ai juré le silence. Je suis un pauvre herboriste. » « Que faut-il pour votre service ?» Et autre bout de phrase de ce genre, qui attestait que Gabriel n'avait pas en face de lui un adversaire bien redoutable. Pas même un adversaire, et peut-être même un ami. L'autre tira de sa poche son petit carnet et se mit à écrire. Monsieur Birouste jeta un rapide coup d'œil du côté de Mlle Norbert, toujours étendue sur son lit. Les yeux de Christine appelaient toujours au secours, et avec une telle éloquence que Monsieur Birouste, qui n'était point un méchant homme, détourna la tête pour ne plus voir cette détresse qui lui faisait d'autant plus de peine qu'il était bien décidé à ne pas la secourir. Quand il eut fini d'écrire, Gabriel tendit à M. Birouste son petit papier. L'herboriste tressaillit encore jusque dans les moelles. Ah, il n'y avait pas de doute. Il n'avait point rêvé. C'était bien là la longue écriture bâtonnante, combattante, chevauchante et zigzagante de Bénédicte Masson. Elle n'était point brouillée naturellement de toutes les teintes de l'arc-en-ciel, mais en dépit de son unique couleur violette, on ne pouvait s'y tromper. Et voici ce que M. Birouste lut. Cette demoiselle va mieux, elle est tout à fait réveillée. Je désire que vous me procuriez immédiatement ce qu'il faut pour la rendormir pendant au moins 12 heures. « Bien, bien !» fit entendre M. Birouste avec un empressement qui prouvait son zèle à servir un client aussi exceptionnel. « J'ai ce qu'il vous faut. Vous pensez, un herboriste. Je vais vous chercher ça. » Et déjà, il dégringolait dans sa boutique, peut-être avec la vague espérance de s'enfuir, est-ce qu'on sait jamais. Mais Gabriel, après avoir fermé la porte de la chambre à clé, dégringolait derrière lui. Notre herboriste avait une façon particulière de traiter le pavot, dont il gardait autant que possible le secret, à moins qu'on ne le lui achetât à un bon prix. C'est pour rien qu'il donna à Gabriel un flacon grâce auquel celui-ci eût pu endormir une famille entière. Quand ils remontèrent de compagnie, ils ne se lâchaient plus, ils trouvèrent Christine étendue au milieu de la chambre. De toute évidence, elle avait voulu tenter quelque chose pour échapper à l'affreux destin qui la menaçait, mais ses forces l'avaient trahie. Gabriel la ramassa fort tendrement et fort doucement, la recoucha sur le lit, et pour qu'elle ne renouvelât point des efforts qui, dans son état de faiblesse, pouvaient lui être funestes, lui fit boire, aidé de M. Birouste, la dose de sommeil nécessaire à un repos bien gagné. Après quoi, Gabriel s'assit au chevet de Mademoiselle Norbert et se prit la tête dans les mains. Il paraissait parti pour un rêve sans fin. Derrière lui, M. Birouste n'osait bouger. Ce n'était point l'envie qui lui en manquait, mais il craignait qu'un mouvement mal interprété... Quelle nuit! Elle semblait ne jamais devoir finir. Dehors, le vent était tout à fait tombé. Il n'y avait plus que le silence, un silence affreux, dans lequel M. Birouste n'entendait que le bruit de son cœur. Pom, pom, pom. Oh, certes, il y avait là de quoi attraper une maladie sérieuse. S'il ne sortait pas de cette nuit-là avec une lésion, c'est qu'il avait le cœur solide. Quelle veillée! Sur le guéridon, une petite lampe était allumée, dont Gabriel avait baissé l'abat-jour. Dans son fauteuil, l'étrange personnage, qui avait toujours la tête dans les mains, ne remet pas plus qu'un bonhomme de cire du musée Grévin. Quand on pense que ce que cet homme tenait dans ses mains, c'était le cerveau de Bénédicte Masson, le cerveau d'un monsieur qui avait assassiné 7 femmes au moins. Ah, la vie d'un homme comme M. Birouste, pour un personnage pareil, devait compter bien peu. Et ne pensant qu'à cela, l'herboriste trouvait que la nuit était longue. 3 heures du matin sonnèrent à Saint-Louis en Lille. Il n'était que 3 heures, et l'on était en décembre. Et en décembre, le petit jour tarde à venir. La demi de 3 heures, 4 heures et toujours pas un mouvement. Ah, ça m'est Quelle était donc son intention à ce bonhomme-là? Il n'avait pas l'air décidé du tout à déménager. S'il restait toute la nuit chez M. Biroust avec sa Christine, c'est qu'il pensait bien y passer encore toute la journée du lendemain. Dame, il se savait poursuivi. Il devait se dire « Où serais-je mieux que chez ce bon M. Biroust qui fait tout ce que je veux ?» Mais est-ce qu'il allait falloir aussi qu'il les nourrit ? 5 heures. Et si par hasard Gabriel dormait ? Certes, il ne l'entendait point ronfler, il ne l'entendait même point respirer. Après une nuit pareille, elle était peut-être plongée dans un sommeil de plomb. Espoir suprême et suprême pensée. Voilà M. Biroust qui se lève tout doucement, oh, si doucement. Rien n'a craqué, ni sa chaise ni sa chaussure. Pour atteindre la porte qui donne sur le palier, il ne faut pas plus de 4 pas, mettons 5. Une fois sur le palier, l'escalier sera vite franchi. Et après... Alors M. Biroust est décidé à risquer le tout pour le tout. 3 pas sont déjà franchis, oui, mais au 4e, voilà le plancher qui fait entendre un gémissement si douloureux que M. Biroust en pleurerait. En attendant que ses larmes coulent, une sueur froide glace ses membres. Oh, il fait pas chaud en décembre dans la petite chambre hospitalière de M. Biroust. L'herboriste est resté une jambe en l'air. Le terrible est que Gabriel, qui ne dormait pas, s'est retourné. Et voilà maintenant M. Biroust avec une jambe et les deux mains en l'air. Cet herboriste a l'air d'un danseur de corde. Il y aurait là de quoi faire rire Gabriel, mais Gabriel ne rit jamais. Il a remis la main dans sa poche, Gabriel. Va-t-il encore en tirer ce sacré revolver ? Non, que M. Biroust se rassure, ce n'est que le petit carnet. Et puis M. Biroust s'aperçoit que Gabriel n'a plus ses yeux terribles. Il n'y a plus dans ses yeux-là qu'une infinie tristesse. Il s'humanise, pense l'herboriste, en reprenant le cours normal de sa respiration et en se laissant retomber sur sa chaise. Mais que va-t-il me demander encore ? L'autre écrit, et maintenant l'herboriste lit. Avez-vous chez vous une armoire à glace ? Si M. Biroust a une armoire à glace, mais je crois bien qu'il a une armoire à glace. Et s'il n'y a qu'une armoire à glace pour faire le bonheur de Gabriel, il va la lui donner tout de suite. Il peut même l'emporter. M. Biroust ne tient pas du tout à son armoire à glace. Il l'a mise dans la chambre d'amis. Mais la chambre d'amis est justement à côté de sa chambre à lui. Elle communique. Il n'y a qu'à pousser une porte. Voyez, monsieur, cette chambre, la chambre d'amis, vous pouvez en disposer. Elle vous appartient, comme tout ce qui est ici du reste. Et quant à cette armoire à glace en acajou, bien qu'elle soit un souvenir de famille, ou si elle peut vous être utile. Mais déjà, Gabriel ne l'écoute plus. Il est allé à la porte qui donne sur le palier, l'a fermée, en a pris la clé pour être bien sûr que M. Biroust ne s'échappera plus. Puis d'un geste, il lui a intimé l'ordre de rester dans cette chambre pour veiller Christine. Après quoi, il est entré dans la chambre d'amis dont il a refermé la porte à clé également. Entre-temps, il a emporté la lampe. Qu'est-ce qu'il va faire dans cette chambre ? Pourquoi s'y enferme-t-il avec une armoire à glace ? Se demande M. Biroust en allumant une bougie de sa main tremblante. Plus forte que la peur, la curiosité pousse M. Birouste à coller un œil au trou de la serrure. Et voilà ce qu'il voit. Gabriel, d'un geste nerveux, s'est débarrassé de sa cape, a déboutonné son vêtement, son gilet, arraché sa cravate qui faisait plusieurs fois le tour de son col, rejeté le tout sur un meuble, enfin il enlève sa chemise et le voilà nu jusqu'à la ceinture. La lueur de la petite lampe l'éclaire, la glace lui renvoie son image. Il est penché sur cette image comme un jeune dieu se regardant dans une source. Quelle peau ! S'écriera plus tard devant le commissaire M. Birouste. Trop douce, fine, satinée comme celle d'une jeune fille. Et quel corps que celui-là ! Assurément, les statues du Louvre ne présentent rien de plus beau ni de plus parfait. Tenez, monsieur le commissaire, vous êtes bien allé quelquefois au Louvre. Vous ne vivez pas toujours avec les assassins, pas plus que moi avec mes herbes. On aime à s'instruire. Vous avez certainement parcouru les salles des antiques. Et vous avez vu Achille, Achille aux pieds légers, comme on disait de mon temps. Ça, hein, c'est de l'art. Car ce n'est pas du cubisme, oh non. Il paraît que cette statue-là, par la régularité de ses formes, par l'accord de ses membres, si j'ose m'exprimer ainsi, pourrait servir comme, qui dirait, de règle métrique pour les belles proportions du corps humain. Eh bien, Achille, monsieur le commissaire, Achille m'a paru de la gnognotte, de la pure gnognotte, à côté de Gabriel. Les Bacchus, les Mercure et tutti quanti, de vrais avortons, à côté de Gabriel. Ah, je vous le dis comme je le pense. Moi, je ne suis pas un artiste, mais tout de même, il n'y a aucune raison au monde pour qu'un herboriste ne soit pas comme le premier homme venu, sensible à la beauté. Il y a bien l'Apollon du Belvédère, hein, ça je ne dis pas. D'autant que les chevaux de Gabriel, il avait ôté son chapeau naturellement, me semblaient à peu près noués comme les siens dans cette volute sur le front qui rappelle le chignon des femmes. Oui, l'Apollon du Belvédère, c'est encore celui-là qui se rapproche le plus de Gabriel. Et encore, il a trop de côtes. On voit encore trop son anatomie. Donc Gabriel était, comment dirais-je, plus enveloppé. Il était aussi fort, mais plus gracieux. Ah, je vois ce que c'est, avait interrompu le commissaire, disant tout de suite que c'était un Canova. Un Canova, si vous voulez. Je n'en ai jamais vu de Canova. J'aime pas la sculpture contemporaine, mais vous m'avouerez tout de même que c'était un supplice pour un homme qui, comme moi, sait apprécier les belles choses. C'était un supplice que de se dire qu'on avait mis dans un corps pareil, enfin, qu'on avait mis... Bien, bien, compris, avait interrompu le commissaire, et passons. Alors qu'est-ce qu'il a fait, votre Apollon du Belvédère ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Eh bien, il ne se fatiguait pas de se regarder. Sûr, il avait l'air de bien se plaire comme ça. Sans compter, monsieur le commissaire, que si ça pouvait être vrai que par hasard, cet homme-là qui était si beau se regardait avec des yeux et surtout avec un cerveau. Oui, oui, ça va, je vois vous en venir. Dame, ce Bénédicte Masson était très laid, vous savez. Monsieur Birouste, je ne vous demande pas tout ça. Ce que vous pensez ou ce que vous ne pensez pas m'est absolument indifférent. Je vous demande ce que cet homme que vous appelez Gabriel a fait. Mais je vous le dis, il se regardait dans l'armoire à glace. Il avait pris la petite lampe dans sa main et il s'examinait de haut en bas. Il se retournait. Une femme qui met pour la première fois une toilette de gala ne se détaille pas avec plus de soin ni de complaisance avant d'aller faire son petit effet dans le monde que cet homme-là en se regardant la peau. et il s'approchait, le visage de la glace, plus près, encore plus près. Il se touchait les joues, le menton, le nez, la bouche et les oreilles. Il trouvait qu'il avait de belles dents. Oh, il pouvait. Enfin, je ne peux pas mieux vous dire, moi. Il se ziotait. Enfin, ça n'a pas duré tout le temps. Non, mais ça a bien duré un quart d'heure. Et tout à coup, il parut se souvenir de quelque chose. Il se frappa le front et courut à ses vêtements. Il courut, ce n'est peut-être pas tout à fait exact, mais il avait une démarche si singulière et en même temps si légère qu'à chaque pas qu'il faisait, on aurait dit qu'il allait courir, se soulever de terre. Enfin, il semblait prendre son élan, comme s'il n'allait pas s'arrêter tout de suite. Et il s'arrêtait parfaitement tout de suite. Il s'arrêta donc devant ses vêtements, il fouilla dans une poche et en tira un petit trousseau de clés. Tout ça se passait juste en face de moi, j'ai bien vu les clés. C'étaient des toutes petites clés. Il pouvait bien y en avoir une demi-douzaine suspendues à un anneau. Je les ai remarquées parce que ce n'étaient pas des clés ordinaires. Elles n'avaient que la tige, des petites tiges creuses, comme qui dirait des clés de montre, quoi. Avec ses clés, il s'approcha de l'armoire à glace. Alors là, placé comme j'étais, je n'ai rien pu voir de ce qu'il faisait. Il avait la tête penchée en avant et la main qui tenait les clés, rapprochée de la poitrine. Quand j'y réfléchis bien, cette main devait toucher le sein gauche. C'est alors qu'il s'est produit un bruit tout à fait particulier qui rappelait le bruit d'une horloge qu'on remonte ou encore d'un coffre-fort que l'on veut ouvrir et dont on fait jouer le chiffre. Puis le bruit s'arrêta net. Gabriel fit quelques gestes et tout à coup il poussa un cri d'horreur en levant les mains puis il rabaissa les mains. J'entendis une sorte de déclenchement et comme le bruit sec d'un coffre que l'on referme. En même temps, il se heurtait à la glace dans ses gestes désordonnés. J'ai cru qu'il allait briser mon armoire à glace, parole d'honneur. Et il se retourna. Oh, monsieur le commissaire, quand il nous était apparu chez mademoiselle Baresca, il nous avait fait bien peur, surtout à ces dames. Mais cette fois, monsieur, cette fois, moi qui suis difficile à émouvoir, j'en eus la chair de poule, la vraie chair de poule. Jamais il n'avait été aussi épouvantable, redoutable, haïssable. C'est cette fois qu'il avait ses yeux d'assassin. Je compris qu'il n'y avait plus rien à attendre de cette bête féroce qui allait tout dévorer. Il s'était rué sur ses vêtements, et avec des gestes spasmodiques, cherchait sa chemise. L'état dans lequel il se trouvait lui faisait perdre heureusement beaucoup de temps. C'est alors que je résolus d'en profiter pour sauver cette malheureuse fille de ses griffes de sauvage, et naturellement me sauver moi-même. Si j'ai pas réussi en ce qui concerne mademoiselle Norbert, il n'y a pas de ma faute, c'est de la sienne. Elle était du reste dans un tel état de faiblesse qu'elle ne pouvait m'aider en cette affreuse minute. En cette minute, monsieur le commissaire, j'arrachai un drap de lit, je le roulai en corde, j'ouvris la fenêtre, j'attachai mon drap comme je pus à son fragile appui, et malgré le danger que je courais en essayant d'aller chercher du secours par ce moyen précaire, je n'hésitais pas à me laisser glisser dans le vide. Monsieur le commissaire, je ne suis pas un acrobate. J'ai l'habitude d'entrer et de sortir par les portes. Ces choses-là, comme dirait Madame Camus, ça ne se voit qu'au cinéma. Et encore, s'il leur arrive malheur aux artistes, ils ont pour les recevoir un matelas que l'on ne nous montre pas. Eh bien, voilà ce que j'ai fait, moi, simple herboriste. Mais il s'agissait, n'est-ce pas, de ne pas laisser ce je ne sais quoi de Gabriel emporter encore une fois comme un sauvage cette pauvre mademoiselle Norbert. Au moment même où j'allais disparaître, la jeune fille sortit du reste de l'espèce de demi-coma dans lequel elle était plongée et, tournée vers moi, elle trouva encore la force de me crier « Monsieur Birousse, sauvez-moi !»« Tout de suite !» lui répondis-je. « Attendez-moi, je reviens !» Une seconde plus tard, j'étais sur le trottoir et je tombais presque dans les bras de Monsieur Norbert et de Jacques Cotentin, qui cherchaient toujours leur homme. « Oh, ne cherchez pas plus loin !» leur soufflai-je. « Il est là-haut, chez moi, avec sa victime. « Mais ouvrez-nous cette porte !» s'écrièrent-ils. « Voici mes clés, leur répondis-je. « Et Dieu veuille que vous arriviez à temps. « Quant à moi, j'étais dans un tel état de faiblesse que je sentais que j'aurais la plus grande peine à les suivre. Je leur criais encore « Attention, il a un revolver !» À quoi le vieil horloger me répondit « Mais il vaut rien, son Browning, il ne marche plus, et il n'est pas chargé. » Monsieur le commissaire, il y a des moments où l'on accomplit des miracles. Je me traînais derrière eux, jusque dans ma maison, dont cette même fauve avait fait son repaire. Mais quand nous arrivâmes au premier étage, ou plutôt quand ils y arrivèrent, car j'étais resté épuisé derrière le comptoir de ma boutique, il n'y avait plus personne. Le sinistre oiseau s'était encore envolé en emportant dans ses serres la Madone de l'île Saint-Louis. Chapitre 4. Aventure survenue à Monsieur Lavieuville, Marguillier. Monsieur Lavieuville, propriétaire, célibataire, humanitaire et marguillier, était un ancien notaire de province qui était venu finir ses jours dans cette île Saint-Louis qui avait vu ses jeux d'écolier. Il habitait la maison où étaient morts ses parents. C'était un brave homme qui n'avait qu'une passion: faire le bien avec l'argent des autres. À part cela, il était prodigieusement avare. Dans ces derniers temps, il avait renvoyé sa vieille bonne, faisait sa cuisine lui-même, avait réduit sa domesticité à la mère Langlois, qui arrivait toujours dans les premières heures de la matinée, disant tout de suite qu'elle ne vint pas ce matin-là. Dans la paroisse, on le citait comme un exemple d'abnégation et de pauvreté volontaire. La fabrique s'enorgueillissait d'avoir son marguillier qui passait pour un saint. Il l'était à sa manière. Étant notaire, il aurait pu spéculer sur les fonds déposés chez lui par ses clients. Il ne l'avait jamais fait. Marguillier, président, trésorier, correspondant de 20 sociétés de secours, il aurait pu faire son profit de l'élasticité de certains budgets de charité ou trouver son compte dans la façon de comprendre certains frais généraux. On ne pouvait rien lui reprocher. C'est tout juste s'il se permettait de se faire rembourser le plus décemment possible l'entretien d'une pauvre petite auto à conduite intérieure. Il conduisait lui-même et redoutait le grand air qui lui était nécessaire pour ses tournées à Paris et dans la banlieue. Son avarice était, à ce point de vue, tout à fait spéciale. Pourvu qu'il maniât des fonds, fût-ce des autres, il était le plus heureux des hommes. Il préférait même que ce fût l'argent des autres, à cause qu'un maniement de fonds présente toujours certains dangers. Palpé de gros billets lui causait des joies infinies. Il en avait toujours sur lui, dans son portefeuille, qu'il ne quittait pas. Son plus grand plaisir était de se présenter chez le pauvre Jean auquel il faisait étaler leur détresse. Après quoi, il étalait, lui, ses billets et leur disait « Regardez, voilà 15 000 francs. Avec cela, je suis plus malheureux que vous. Il m'en faudrait 10 fois autant pour soulager les misères sur lesquelles je me penche chaque jour. » Et il repartait en leur laissant une obole. On lui disait « Mais vous vous ferez voler ?» Il répondait « Dieu protège l'argent de la charité. » En attendant, comme il ne comptait que sur lui pour protéger le sien, il ne le sortait pas. Tous ces détails étaient nécessaires pour que le lecteur ne fût point trop surpris par l'aventure survenue en l'île Saint-Louis à 6h30 du matin à M. Lavieuville Marguillier. C'était le matin même qui succédait à cette nuit funeste où nous avons vu le courageux M. Birouste aux prises avec le terrible Gabriel. Depuis qu'ils avaient quitté l'herboristerie, après avoir constaté que Gabriel avait fui sa demeure en emportant Christine, le vieux Norbert et son neveu n'avaient point cessé leurs recherches. L'île Saint-Louis avait été fouillée dans tous les coins et recoins. Quelle nuit ils avaient passé, eux aussi. Ils étaient exténués, mais ne sentaient point leur fatigue. Le sentiment aigu du danger mortel que courait la malheureuse Christine les poussait toujours en avant. N'ayant rien trouvé dans l'île, ils avaient à tout hasard traversé les ponts. Ils avaient interpellé des vagabonds, interrogé un ivrogne affalé sur un banc, un marchand de marrons qui allumait ses fourneaux, fait le tour du quai des Célestins, pénétré dans le boyau de Geoffroy Lanier, sondé toutes les ombres de tous les cul-de-sac entre Saint-Paul et Saint-Gervais, puis fait le tour par le square Notre-Dame et le quai de la Tournelle. Enfin, il revenait dans l'île Saint-Louis, au moment où elle sortait des brouillards de la Seine, dans la lueur blême des matins frissonnants, quand tout à coup, au coin de la petite rue où se dressait la maison de M. Lavieuville Marguillier, ils aperçurent, à ne s'y point tromper, la silhouette de Gabriel. Il était seul et marchait vivement. Il courait plutôt. Dans un dernier bond, il fut contre la porte de la maison de M. Lavieuville. Jacques voulait déjà se précipiter, mais l'horloger le retint. « Attention !» lui dit celui-ci. « Cette fois, ne le manquons pas. Il s'agit de ne pas lui donner l'éveil. Nous allons bien voir ce qu'il va faire. Tu sais que nous ne pouvons pas l'atteindre à la course. » Mais dans tout cela, gémit Jacques Cotentin, « Mais qu'est-ce que Christine peut bien être devenue ?»« Oh, pour moi, elle a fini par lui échapper. Elle est peut-être déjà à la maison. »« Attention, qu'est-ce qu'il fait ?» À leur grande stupéfaction, ils virent Gabriel, qui sortait de dessous sa cape un trousseau de clés et qui, sans hésitation, introduisait l'une d'elles dans la serrure de la porte de M. Lavieuville. « Voilà qu'il entre chez M. Lavieuville, maintenant. » Il venait en effet de pénétrer dans l'immeuble. C'était au tour de l'horloger et de Jacques de bondir maintenant. Si nous voulons qu'il ne nous échappe pas, avait émis le vieux Norbert, sautons-lui dessus tout de suite et renversons-le. Il a beaucoup de peine à se relever et à reprendre son équilibre. La porte n'était pas refermée. Ils se ruèrent dans la maison, se heurtèrent dans la demi-obscurité à celui qu'ils poursuivaient. Le vieux Norbert s'empêtra dans sa longue cape noire. Jacques donna au ravisseur de Christine un solide croque en jambe qui le fit rouler sur la carpette dans laquelle l'ombre et le neveu l'enveloppèrent immédiatement avec une décision brutale qui ne permit à l'autre qu'un mouvement. Du reste, il ne se défendait pas. Depuis qu'il était à terre, il ne faisait aucun mouvement. Quand il ne fut plus qu'un paquet dont on eût pu dire la nature, ils le sortirent à eux deux, le transportèrent le plus rapidement possible en rasant les murs jusqu'à la rue du Saint-Sacrement. Ils ne rencontrèrent que le père Julliard, le commissionnaire qui rentrait des Halles fortement éméché et qui les regarda passer d'un air abruti. « Vous battez vos tapis à cette heure ? C'est tout même pas une saison, avoir peur des bites ?» Enfin, ils furent chez eux, appelèrent Christine, qui ne leur répondit pas, s'enfermèrent avec leur fardeau dans le pavillon du jardin et commencèrent prudemment à dérouler la carpette. Tous deux étaient en sueur, haletant, n'en pouvant plus. « Attention, disait Jacques, surveillons-le, il ne faut plus qu'un pareil coup recommence. »« Oh, tant qu'il est à terre, je te dis qu'il n'y a pas de danger. »« Il va falloir le coucher, l'étendre sur le lit à bascule et ne pas le quitter une minute. » Ben, tu resteras auprès de lui pendant que j'irai chercher Christine. Non, moi, pourvu qu'il ne soit pas déjà arrivé à malheur. Ah, oh, Jacques, Jacques, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait de mon automate? Taisez-vous. Si tout était perdu, je me ferais sauter le caisson. Pour éviter toute surprise, Jacques avait allumé le grand jeu électrique. Il s'agitait dans une nappe éblouissante de lumière. Ils étaient prêts à se jeter sur Gabriel au moindre geste suspect, mais ils poussèrent en même temps une sourde exclamation. Le prisonnier qu'ils avaient fait, et qui était bien revêtu de la cape de Gabriel, et qu'ils avaient vu coiffé du chapeau de Gabriel, lequel le chapeau avait sauté dans le combat, ce prisonnier, qui n'osait remuer ni pousser un cri, tant son épouvante était démesurée, ce n'était pas Gabriel. C'était Monsieur Lavieuville Marguillier. Aussitôt qu'ils se furent aperçus de leur erreur, le vieux Norbert et Jacques Cotentin n'eurent qu'une pensée, faire l'obscurité là où ils avaient prodigué tant de lumière. Quand les computateurs furent tournés, ils aidèrent M. Lavieuville à se relever à tâtons et le firent sortir sans plus tarder du laboratoire. Le tenant chacun sous un bras, ils l'accompagnèrent ainsi jusque dans la boutique de l'horloger où le marguillier se laissa tomber sur un siège. Les volets fermaient toujours les fenêtres sur la rue, mais le jour pâle de décembre pénétrait par la fenêtre donnant sur le jardin. « Messieurs !» gémit d'une voix expirante le pauvre M. Lavieuville, qui avait reconnu M. Norbert et le jeune et déjà célèbre prosecteur. « Monsieur, vous m'avouerez que tout ce qui m'arrive depuis ce matin est inimaginable. » « Ah, inimaginable. Monsieur Lavieuville, vous désireriez peut-être prendre quelque chose, un peu de thé bien chaud. »« Oh non, je désire avant tout rentrer chez moi et prévenir la police. » Monsieur Lavieuville prononça l'horloger d'une voix un peu sèche et telle que le marguillier trouva même menaçante. « Avant d'introduire la police dans une pareille histoire, qui est avant tout une histoire de famille, comme nous allons vous le prouver en nous excusant d'une erreur dont vous avez été victime, vous voudrez peut-être bien nous dire comment il se fait que vous portiez un vêtement qui ne vous appartient pas et qui nous a trompé sur votre honorable personnalité. » « Oh, mon Dieu, monsieur Norbert, je n'y vois aucun inconvénient. » « Ce vêtement, je ne l'ai pas volé, veuillez le croire, mais on m'a pris le mien et on m'a donné celui-ci. C'est aussi simple que cela. Et quant aux conditions dans lesquelles a eu lieu ce fâcheux troc, je ne vous les cacherai pas davantage, et peut-être alors pourrez-vous me donner la clé de cette énigme, car pour moi, j'avoue que je comprends de moins en moins ce qui m'arrive. Monsieur Lavieuville, nous vous renouvelons nos excuses, fit alors entendre Jacques. Ne nous cachez rien, il y va peut-être de la vie d'une personne. J'ai bien cru qu'il y allait de la mienne, fit monsieur Lavieuville en secouant douloureusement sa tête grisonnante. Enfin, si j'en suis quitte pour ces 15 000 francs, je m'en consolerai. Bien que ne soit pas à moi, peut-être même dois-je me féliciter de votre intervention, toute brutale qu'elle fût, car elle me procure un témoignage qui viendra renforcer mes dires, s'il y avait de méchants esprits, pour mettre en doute mon honnêteté qui est, avec la charité, ma seule raison d'être ici-bas. Mais vous avez l'estime de tous ceux qui vous connaissent, monsieur Lavieuville, proteste à l'horloger. Mais il ne s'agit pas de 15 000 francs. Oh, pardon, il s'agit parfaitement de 15 000 francs. Pas un sou de plus, pas un sou de moins. Monsieur Lavieuville, ayez pitié de l'état dans lequel vous nous voyez. Dites-nous ce qui vous est arrivé. Ces 15 000 francs appartiennent à la fabrique. J'avais mission de les convertir en bons de la défense nationale, et comme mon dessein, après avoir entendu la messe de 6 heures et avoir fait ma tournée quotidienne chez quelques familles pauvres du quartier et des environs, était de passer à la banque, je les avais emportés sur moi et serrés dans mon portefeuille. Au premier coup de la messe, je quittai mon domicile. Je sortis ma petite auto à conduite intérieure du garage qui venait d'ouvrir et je montai dans ma voiture. À ce moment, je voulus régler une petite note que je devais au gardien. Je pris dans la poche intérieure de ma redingote mon portefeuille et en sortis un billet de 50 francs sur lequel le gardien me rendit 45 centimes de monnaie. Et tout en comptant cette monnaie avant de la glisser dans ma poche, je ne m'aperçus pas qu'au lieu de remettre le portefeuille dans la poche de ma redingote, je le plaçais dans la poche intérieure de mon pardessus. Mon pardessus, monsieur, est une véritable houppelande doublée de peau de lapin au col garni de faux astrakans. C'est la fourrure qui convient à un homme de mon caractère, qui a consacré le peu qu'il possède à soulager autant que possible la misère de ses semblables. Au fond, ce vêtement est confortable et chaud, c'est tout ce que je lui demande. Il est, ou plutôt il était, complété par une toque de fausse loutre à oreillette qui en sert bien la tête et avec laquelle on peut braver les frimas. Vous dites tout cela, messieurs, parce que cela pourra peut-être vous être utile tout à l'heure, et puis, dans une aventure aussi inexplicable, il convient de n'oublier aucun détail. Quelques minutes plus tard, j'arrêtai ma voiture devant la petite porte de l'église, que vous connaissez bien, car je vous ai vu souvent à la messe le dimanche matin, avec votre demoiselle, et c'est ce qui me donne confiance, malgré tout. J'assistais à la messe qui était dite par M. l'abbé Lequen, que vous connaissez bien aussi. Après la messe, j'allais le rejoindre dans la sacristie, et pendant qu'il s'habillait, je l'entretins de quelques œuvres de charité que nous avons ensemble. Il quitta la sacristie, je rentrai dans l'église déserte pour y faire encore quelques dévotions selon ma coutume, car j'aime à m'entretenir seul à seul avec Dieu. Puis je gagnai la petite porte, et je me disposais à monter dans mon auto, quand tout à coup, je vis surgir de derrière l'église un homme avec une longue cape, dont il essayait de recouvrir un corps humain, le corps d'une femme autant que j'en pus juger dans mon désarroi. Cet homme, qui avait des yeux terribles, bondit sur moi, me menaça de son revolver, me fit glisser par terre d'un coup de genou dans le ventre, je le sens encore, jeta le fardeau humain qu'il portait au fond de ma voiture, revint sur moi, me débarrassa en moins de temps que je ne pourrais le dire de mon paletot et de ma casquette de loutre dont il était vêtu, referma la portière, mit en marche, j'ai une mise en marche intérieure électrique, et disparut du côté du pont de Sully. Oh, je me relevais si stupéfait, si anéanti, que j'avais plus la force pour crier. Et comme il faisait très froid, et que je suis très frileux, et que je crains par-dessus tout les fluxions de poitrine et les rhumes de cerveau, la première chose que je fis fut de m'envelopper dans la cape de cette énergumène, de mettre son chapeau sur ma tête. Puis je me dirigeai en chancelant vers l'église. J'y rentrai, je n'y vis personne. J'eus l'idée alors qu'il fallait pas perdre une minute pour prévenir la police. J'ai le téléphone chez moi. Je courus chez moi. J'ouvris ma porte. Et je ne l'avais pas plus tôt ouverte que j'étais à nouveau bousculé, jeté par terre. J'ai bien cru que mon bandit était revenu et que cette fois, je n'en réchapperais pas. Je recommandais mon âme à Dieu. Et vous connaissez la suite, messieurs. Monsieur la Vieuville, dit l'horloger d'une voix sourde, frémissante de douleur, vous êtes à plaindre, car vous avez été molesté et volé. Mais nous sommes plus à plaindre que vous. L'homme qui vous a fait cette injure est un pauvre fou, un parent que mon neveu et moi soignons à domicile, ajouta-t-il en rougissant comme un enfant menteur. Il a malheureusement conçu pour ma fille, qui est fiancée à M. Jacques Cotentin, une passion qui a fait dégénérer sa maladie en folie furieuse. Profitant d'un moment où notre surveillance s'était ralentie, il nous a échappé, s'est emparé de ma pauvre Christine qu'il a brutalisée comme un sauvage, la heurtant à tout ce qui lui faisait obstacle. Mon neveu et moi, en entendant les cris que poussait ma fille, nous nous précipitâmes, hélas. Il avait déjà traversé le jardin, le magasin, ramassant sur une table un Browning que j'avais laissé là pour le réparer. Il était déjà loin dans la rue quand nous parûmes sur le seuil. La nuit, l'obscurité, le vent, la neige, la tempête nous séparaient. Alors, il disparut avec sa proie. Depuis des heures, nous le cherchions, quand nous vous avons vu enveloppé de sa cape et coiffé de son chapeau. Ah, je comprends, je comprends. Comprenez-vous maintenant, monsieur de la Vieuville, alors, comprenez surtout. Mais c'est un père, un fiancé qui vous supplie. Ils savent du reste qu'ils ne s'adresseront pas en vain à un cœur charitable. Comprenez qu'il ne faut pas encore prévenir la police. Il y va de l'honneur de mon enfant. Un pareil scandale la perd et nous perd. Nous ferons tout pour l'éviter. Ce pauvre fou ne saurait aller très loin. Il a pris votre auto. Eh bien, tant mieux. Sa trace ne sera que plus facile à repérer. Il a pris votre manteau, votre casquette de loutre, mais tant mieux. Il se croit, dans sa naïveté de fou, déguisé, à l'abri de nos recherches. Il n'en sera que plus facile à rejoindre. Tant mieux, tant mieux. Vous êtes bon, vous, messieurs, mais vous oubliez qu'il a pris aussi mes 15 000 francs. Vos 15 000 francs vous seront rendus avec votre auto, votre manteau et votre casquette, monsieur la Vieuville. Nous ne vous demandons que 24 heures.